Stop, c'est parti.
C'est pas la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est presque 9h40 sur France Inter et c'est le début d'un nouvel instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Depuis bientôt 40 ans, Alternatives économiques croisent le fer contre le néolibéralisme, dénonçant un catéchisme médiatique entièrement acquis à l'ennemi. Au risque de tomber à son tour dans un tout prêt à critiquer, c'est-à-dire un prêt à penser, c'est ne pas prendre la peine de lire ce journal qui n'aime rien tant que transpirer sur les chiffres sans leur faire dire nécessairement ce qu'on en attend. Encore fallait-il surmonter l'appréhension que suscitent chez beaucoup d'entre nous ces sujets. Encore fallait-il surmonter l'austérité de cette presse un peu dense et un peu grisaille. L'austérité quand même, un comble pour Alternatives économiques qui n'a cessé de la dénoncer. Nouvelle formule, de l'air et plus de papier. Vous voyez, il n'y a pas que l'Europe qui sait s'amender.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Laurent Jeannot.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction d'Alternatives économiques. Alors cette nouvelle formule, elle arrive, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vous montre en avant-première, exclusivité mondiale, attention, la couve qui sera en kiosque jeudi. Votre titre de une pour jeudi, c'est « Peut-on encore vivre de son salaire ?» 5,90€ en kiosque. Quand même, la presse, ça se paye. Ça coûte et ça se paye en kiosque. À nos côtés, comme chaque mardi, Xavier Delaporte.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes.
Bonjour à tous. Et La Fenêtre de la Porte, chronique numérique du mardi matin, qui part aujourd'hui à la conquête du grand siècle. Rien que ça.
Exactement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, des gens annoncent en plus ou moins grande pompe qu'ils quittent Twitter. Mm-hmm. Quand ils donnent une explication, c'est parce qu'ils ont souffert d'être pris à partie, qu'ils sont fatigués de l'ambiance qui y règne ou qu'ils y perdent trop de temps. Bref, ils renoncent et se retirent, non sans avoir écrit en général un dernier message auquel il arrive parfois de connaître un grand succès, ce qui est un assez beau paradoxe. Bref, cette tendance provoque en moi un sentiment contrasté, surtout quand elle le fait de comptes actifs et très suivis. C'est évidemment leur droit de faire cela. C'est même peut-être assez sain. Parmi eux, j'ai vu des gens qui s'abîmaient en tweetant, d'autres qui étaient abîmés. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de trouver ce genre d'annonce un peu ridicule, un peu égocentré, voire un peu hypocrite, car parmi ceux qui partent sous prétexte que Twitter est violent, j'en ai vu qui n'étaient pas les derniers à y contribuer. Mais surtout, depuis le début, j'ai ce sens, un air de déjà-vu, comme si cette alternative, quitter ou pas un petit monde social, était déjà connue, avait été formulée ailleurs, dans un autre temps. J'ai longtemps cherché. Et puis hier, paf, comme par miracle,
fulgurante.
J'ai compris. Voilà, ouais. Une de plus. Tout ça me faisait penser au Misanthrope de Molière, la magnifique pièce où Alceste finit par quitter ce qu'il appelle le monde. Alors, ce n'est pas seulement son amour déçu pour Célimène qui l'y mène, rime intérieure.
Mais c'est très joli.
Souvenez-vous ce que dit Alceste, un traître dont on sait la scandaleuse histoire est sorti triomphant d'une fausseté noire. En gros, Alceste se considère comme victime de fake news et de shitstorm. Il en tire les conséquences. Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge. Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge, puisque entre humains ainsi vous vivez en vrai loup, traître, vous ne mourrez de ma vie avec vous. Mais son copain Philinte lui oppose des arguments que je trouve tout à fait pertinents. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte et les hommes devraient être frais d'autre sorte. Mais est-ce une raison que leur peu d'équité pour vouloir se tirer de leur société ? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. Si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles, la plupart des vertus nous seraient inutiles. En gros, Philinte lui dit qu'il faut affronter les humains tels qu'ils sont. Ce à quoi Alceste répond « La raison pour mon bien veut que je me retire. Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire. De ce que je dirais, je ne répondrai pas et je me jetterai sans chose sur les bras. » Et voilà, Alceste ne résiste pas à la tentation de clasher, il quitte Twitter. Ce qui est intéressant, c'est que le Misanthrope est une pièce très particulière et Alceste un personnage tout à fait singulier, admirable et ridicule à la fois sage et aveuglé par lui-même, à la fois courageux et lâche, à la fois cohérent et contradictoire, parce qu'à travers Célimène, la mondaine, c'est aussi le monde dont il est un peu amoureux. Bref, Alceste est l'ancêtre parfait de la personne qui quitte Twitter. Plus passionnant encore, Molière ne tranche pas entre toutes ces oppositions qui font Alceste, mais il livre une leçon qui est parfaitement adaptée aux réseaux sociaux. La vie mondaine est un jeu de faux-semblants, un théâtre où chacun revêt un masque. Annoncer son retrait du monde, nous dit Molière, ce n'est pas enlever son masque, c'est juste en mettre un nouveau. Et voilà comment, 350 ans après, Twitter produit plein de petits Alcestes, aussi énervants et aussi admirables quand ils brandissent leur nouveau masque.
Je suis ébloui, Xavier Delaporte.
Oh,
et j'invite à vous réécouter sur franceinter.fr. Sinon, il y avait la pub de la Renault 5 quand on était petit. Vous vous souvenez pas ?
Ah non, pas du tout.
Adieu, monde cruel, enfin !
Ah, c'est vrai ? Je me souvenais pas. Bon.
Alternatives économiques, on y va.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
La Grande-Bretagne devrait payer cette année à l'Europe environ 14 milliards de francs, mais Mme Thatcher demande qu'on lui en rende. Il est bien entendu que ce genre de problème ne veut pas se régler définitivement dans un entretien à deux. Donc cette rencontre Mitterrand-Thatcher, c'était surtout une préparation du sommet à 10, sommet qui dépendra une fois de plus de la fameuse fermeté de Mme Thatcher. Alors, faut-il dire fermeté, faut-il dire obstination ? Les collaborateurs de Mme Thatcher s'en tirent par une plaisanterie. Il paraît qu'ils appellent entre leur patronne Tina, ce sont les initiales de sa phrase préférée, « There's no alternative », c'est-à-dire « Il n'y a pas d'autre solution ».
Ça vous rappelle des souvenirs, Laurent Jeannot, directeur de la rédaction de « Alternatives économiques ».
Alors oui, en tout cas les histoires qu'on m'a racontées, parce qu'à l'époque j'étais pas encore né,
ouais.
Mais effectivement le nom du journal Alternative ouais. Économique est une réaction, un contre-pied à ce fameux Tina, hein, There is no alternative ouais. De Margaret Thatcher. Quand Denis Clair en 1980 a créé Alternative Économique, c'était pour dire si, il y a des alternatives, il n'y a même pas simplement une alternative, il y en a plusieurs. Et ce qui est important, c'est de défendre le pluralisme en économie et de...
Ah bah, le pluralisme, justement, parce qu'on va parler du pluralisme des idées, mais le pluralisme de la presse en économie. On fait un petit point quand même sur la situation française qui est très atypique en Europe. Nous n'avons pas de presse économique, ou si peu. Nous avons un seul grand quotidien économique pour une grande puissance économique qui est la nôtre, membre du G7. C'est absolument surréaliste. Il s'appelle Les Échos, appartient à LVMH. Il y a les pages saumon du Figaro, depuis très très longtemps, qui constitue un journal dans le journal. Le Monde s'est déployé avec un cahier économique quotidien et hop, on a replié la pagination alors que vous l'allongez. Donc Le Monde qui dit qu'il va très bien quand même replie sa pagination. Il y a bien le magazine Capital, et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que Alain Veil reprend l'Express et qu'il va essayer d'en faire des économistes, en gros. C'est extrêmement maigre.
C'est très paradoxal quand on sait l'importance des questions économiques dans le débat politique, dans le débat public et démocratique. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que on regarde la manière dont cette information économique est traitée dans les journaux. C'est que, en fait, on se rend compte que c'est souvent externalisé à des experts. Ce qui est assez frappant quand on regarde le champ médiatique, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes qui interviennent dans les médias.
Oui.
Et alors, assez peu d'économistes de gauche, hein, il faut être clair, mais globalement par rapport à des politologues ou d'autres spécialistes, des scientifiques, les économistes sont très présents sur les plateaux de télé,
parce que les journalistes ne savent pas faire.
Parce qu'il y a un déficit de formation économique des journalistes à la base. Le sociologue Jean-Marie Charon l'a chiffré, hein, 6% des journalistes ont une formation économique. Et donc il y a aussi, c'est une hiérarchisation un petit peu des sujets. En France, on survalorise la politique. La politique, c'est le domaine un petit peu noble d'un point de vue journalistique. Et même quand c'est des sujets économiques qui sont dans le débat, par exemple quand on débat du budget ou d'un projet de loi, c'est souvent les journalistes politiques qui vont intervenir, qui s'en emparent et qui vont l'aborder du point de vue de l'angle des tactiques politiciennes, comment ce projet de loi va permettre à tel ou tel homme ou femme politique de pouvoir s'en sortir par rapport à d'autres.
Il y a le poids de la télévision aussi, Laurent Jeannot. 85% des Français s'estiment nuls en matière d'économie. C'est la sensation, et c'est comme ça qu'il le délivre dans un sondage. Mais 65% d'entre eux désignent la télévision comme première source d'information économique. Donc le JT, les magazines comme C'est dans l'air, Cache Investigation ont une importance énorme. Et de fait, l'économie y est beaucoup traitée. Une émission comme C'est dans l'air n'hésite pas à consacrer, mais alors, des éditions entières à des questions assez arides de fiscalité ou de négociation avec les partenaires sociaux. Et ça a un vrai succès, ça rencontre un vrai public. Cache Investigation, envoyé spécial, on ne s'arrête pas au prix comme l'a fait longtemps M6, mais vraiment ce sont des enquêtes très massives sur les tenants et les aboutissants de filières entières de domaines économiques. Et puis on s'aperçoit que les JT sont très complets, souvent proposent des dossiers très articulés avec du reportage, avec de l'infographie, avec un éditorialiste en plateau, avec beaucoup de pédagogie finalement.
Il y a une grande appétence pour les sujets économiques. Et un bon exemple aussi, c'est l'émission de France Inter, On n'arrête pas l'écho, qui connaît un très grand succès et qui est une bonne émission. Mais le problème se situe plus sur les intervenants qu'on va choisir. Oui. Et faute de temps, en fait, on se rend compte qu'il y a un poids surdimensionné des économistes de banque qui interviennent dans les médias et notamment sur les plateaux télé. Mmh. Et là où ça pose un problème déontologique, c'est que c'est souvent très rarement affiché. On sait très rarement que tel économiste qui prend la parole dans les médias travaille pour la BNP ou pour Natixis. Ils préfèrent mettre en avant leurs travaux d'enseignement ou de recherche et ils cachent en fait souvent ce qui constitue l'essentiel de leurs revenus et qui est de faire des missions de consultants pour les banques. Ça pose un problème, mmh. surtout quand ils parlent par exemple de la régulation financière. Dans quelle mesure ils défendent les intérêts de leur principal employeur, on peut se poser la question.
Alors, du coup, on va vraiment se poser la question, parce que la période est très particulière depuis quelques mois, depuis le début de la crise des Gilets jaunes et de sa médiatisation, qui elle aussi soulève beaucoup de questions. Votre nouvelle formule arrive justement en plein dedans. Peut-on dire que les médias ont changé, ont transformé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, leur façon de parler d'économie? En tout cas, le débat, il est là. C'est-à-dire que on peut parler d'un catéchisme médiatique, on peut parler de mythologie, on peut parler d'uniformité, comme vous le rappelez dans votre édito qui ouvre cette nouvelle formule. Et pourtant, la période, elle a jamais été aussi propice au débat. Vous consacrez un papier entier, par exemple, sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Finalement, à qui profite le crime, puisqu'il vous paraît totalement injustifié économiquement parlant. Mais ce débat, Laurent Jeannot, il est partout. Partout.
Oui, c'est le paradoxe. Les questions économiques infusent partout tout le débat démocratique. Mais paradoxalement, c'est quelque chose dont les gens ont quand même du mal à s'emparer. C'est quelque chose d'économique.
Les gens ont du mal à s'emparer, mais ce que je veux dire, c'est que le débat contradictoire, il est partout. La question faut-il ou pas privatiser l'aéroport de Paris, finalement, elle est sur tous les plateaux et dans tous les journaux. Faut-il ou pas?
Oui, le débat existe sur le champ médiatique, je suis d'accord, mais c'est un débat qui est fermé, et puis c'est une question qui est déjà tranchée d'une certaine manière. Mais c'est vrai que, y compris avec ce qui se passe autour des Gilets jaunes, c'est tout d'un coup la question sociale, la question des inégalités, aussi la question fiscale est revenue sur la table.
Absolument.
De manière, c'est le mouvement social qui a imposé ça, qui impose les termes du débat, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez nouveau. Mais on se rend compte aussi que c'est un débat, la manière dont est organisé le grand débat par le gouvernement est très corseté. Mm-hmm. Derrière, il y a beaucoup de non-dits. Et la difficulté par rapport à ça, quand on est un journal spécialisé sur les questions économiques, c'est d'arriver à franchir cette réticence que peuvent avoir les gens à s'emparer vraiment du sujet, à donner leur point de vue sur quelque chose qui peut être très technique, comme les questions de fiscalité. L'économie, c'est quelque chose qui fait peur, et beaucoup de gens, malgré tout, se disent « c'est pas pour moi ». Et finalement, le mouvement des Gilets jaunes aussi, c'est une manifestation du fait que on essaye de masquer le fait qu'il y a différentes politiques possibles. Et au bout d'un moment, les gens ont l'impression que ce soit la droite ou la gauche qui gouverne, on ne peut rien changer. Il ne reste plus qu'une chose à
Justement,
faire, c'est renverser la table.
On va écouter Emmanuel Macron faisant ses annonces.
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge.
Ce qui est extrêmement intéressant, Laurent Jeannot, et vous consacrez tout un papier, tout un dossier titré « Comment les gilets jaunes sauvent la croissance française » et pas l'inverse, c'est de réfléchir au champ lexical de la fatalité qui est celui des politiques. C'est-à-dire que les politiques parlent toujours d'économie, mais c'est toujours sous forme de renoncement, d'obligation, de contrainte. En gros, on nous dit toujours de frustration, de punition quand on nous parle de Bruxelles. On n'a pas le choix, c'est très anxiogène. Et donc, de la part du politique, dans le vocabulaire politique, on nous dit « c'est comme ça, on n'a pas le choix ». Et qu'est-ce qu'on vient de voir là? Un président de la République qui dit « je veux et j'ai envie que ».
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure, on a entendu Margaret Thatcher, mais il y a un an, Emmanuel Macron, dans une interview à la presse anglo-saxonne, disait la même chose que Margaret Thatcher, avec une formulation un peu différente. Il disait « There is no other choice ». Donc, il était vraiment sur cette ligne-là, une seule politique possible.
C'est un peu... Vous auriez pu changer le titre du magazine. Autre choix. Je vous en prie, continuez.
Et effectivement, aujourd'hui, par la force des choses, ces annonces-là, c'était pas quelque chose qui était prévu. C'est contraint qu'Emmanuel Macron a pris ces décisions-là. Oui. Et on se rend compte qu'effectivement, là, les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir nous montrent que ça va avoir un impact positif sur la croissance parce que ça va redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux gens. Et c'était quelque chose qui était pas du tout prévu, anticipé, voulu à la base par le gouvernement. Et je sais pas d'ailleurs si ça les arrange vraiment. Ce que racontent les chiffres de l'INSEE aujourd'hui, ça invalide d'une certaine manière.
Les chiffres, c'est votre histoire, c'est l'histoire de ce journal. Les chiffres, où aller chercher les chiffres et comment les faire parler? Parce que vous le dites, nous allons chercher d'autres statistiques que les statistiques délivrées par la parole médiatique ou par la parole gouvernementale. Allez chercher les chiffres.
Oui, c'est quelque chose de très important, Alternative économique. Ça fait longtemps que les journalistes ont l'habitude d'aller chercher les chiffres, bien avant que le data journalisme devienne un phénomène de mode aujourd'hui, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense. Alors maintenant, nous, on essaye d'aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que c'est important de savoir chercher les bonnes données, de les regrouper, voire de faire ses propres calculs. Mais c'est aussi quelque chose, les chiffres qui peuvent faire peur au public. Et on a essayé de se poser la question de comment rendre ça plus attractif, donner envie. Et on a expérimenté, il y a un an, on a lancé une revue illustrée qui s'appelle Oblique, où là, le principe, c'était de demander à des illustrateurs de dessiner des graphiques. On va pas tracer une simple courbe, mais on va essayer de mettre ça en scène pour rendre, pour essayer de toucher le plus grand nombre, le plus de gens possible. Et c'est ce qu'on a essayé de traduire dans cette nouvelle formule d'alternative économique. C'est pas simplement une nouvelle maquette, une nouvelle formule, c'est même, d'une certaine manière, un nouveau journal. Tout à l'heure, vous disiez que Alternative économique, c'était austère, c'était un paradoxe pour un journal qui lutte contre
l'austérité.
Qui déteste l'austérité. Bah là, on a essayé de se préoccuper de la forme. Jusqu'ici, on peut dire que notre priorité, c'était plutôt le fond. On négligeait un petit peu la forme. Avec cette nouvelle formule, on a essayé de créer un journal graphique, beaucoup moins dense, plus aéré, et en misant un petit peu, en essayant de se rattacher à la culture visuelle des jeunes générations qui est liée à Internet et qui est très fort. Et voilà, on a essayé de parler de ce langage-là.
Et puis, le catéchisme qu'on vous prête n'est pas forcément celui qu'on lit finalement en vous feuilletant. J'en veux pour preuve votre étude sur le SMIC et les travailleurs pauvres, où l'on apprend que le SMIC français finalement est l'un des plus élevés d'Europe, où la France est le pays où l'on dénombre le plus de salariés qui gagnent dans les environs du SMIC, autour de 1500 euros par mois. Mais peu souvent, ce sont des salariés pauvres, même assez rarement. Et parmi les salariés français, ce sont ceux dont le pouvoir d'achat a le plus augmenté ces dernières années. Mais j'aurais pu dire ça dans le point, mon cher.
Mais nous, on défend pas un catéchisme alternative économique, c'est un journal de gauche, c'est clair, hein, on se cache pas derrière notre petit doigt, on le dit, on assume, et on préfère que les gens sachent d'où on parle. On se cache pas derrière une prétendue objectivité qui est un peu un mythe journalistique. Mais à côté de ça... Nous, notre combat essentiel, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait un débat d'idées, qu'il y ait un pluralisme de l'information économique et qu'on puisse entendre plusieurs voix. Mm-hmm. C'est faire entendre une autre voix dans le concert médiatique. Mais on cherche pas forcément à ce que nous, ce qu'on pense, devienne la nouvelle doxa, la nouvelle voix dominante qui écrase les autres. Simplement, faire en sorte que puisse y avoir une délibération démocratique sérieuse, digne de ce nom, des arguments, une bataille d'arguments un petit peu sérieuse. Et ça paraît évident comme objectif. Ben, c'est pas si simple. Rien que le fait qu'alternative économique existe, excusez-moi, ça pose problème à beaucoup de gens. Et il y a des économistes soi-disant très sérieux qui ont sorti un livre il y a 2 ans qui nous traitait de négationnistes économiques, tout simplement parce que on disait quelque chose qui est pourtant assez évident, c'est que les 35 heures ont créé énormément d'emplois. Et parce que on n'était pas d'accord avec eux, ils disaient qu'on était des négationnistes. Je pensais que c'était sur les commentaires sur Facebook qu'on arrivait très rapidement au point Godwin. J'étais un peu surpris que des économistes qui présent de sérieux.
Voilà, Alternatives Économiques sera donc avec nouvelle formule, nouveau papier, nouveau dossier, nouvelle couve en kiosque. Donc je l'ai dit jeudi, vous y lirez aussi un papier très surprenant sur à quoi ça sert l'argent liquide. Pas seulement à blanchir de l'argent mafieux, mais aussi à garantir les libertés individuelles. Et un papier, moi, qui m'a passionné sur le duc de Sully, ministre des Finances d'Henri IV. Merci beaucoup, Laurent Jeannot.